Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
Bonjour Francis.
Salut Mario, bon vendredi.
Alors avec l'inflation, on le dit, on le redit, à chaque mise à jour, l'argent rentre dans les coffres des gouvernements.
Ben oui, je sais pas s'il faut s'en réjouir, mais...
On le constate, minimalement.
C'est ça, exactement. Ben c'est la revue financière mensuelle là, du fédéral, là, dans le fond, qui montre qu'en fait, pour les premiers six mois de l'exercice 2022-2023, le gouvernement fédéral avait affiché un surplus inattendu, pourrait-on dire, de 1,7 milliard de dollars. Ce qui est intéressant, Mario, quand on décortique un petit peu, c'est que les revenus ont beaucoup, beaucoup progressé de 32 milliards de dollars. C'est 18 % de plus que l'année passée. Fait qu'il y a une portion importante de ça. Ouais. Puis tu sais, quand on dit des revenus de l'État, là, Mario, c'est des taxes, des impôts, puis des frais, là, tu sais. Fait qu'ultimement, si ça a augmenté de 18 %
c'est nous.
C'est vous et moi. C'est ça, les entreprises.
Il n'y a pas de contributeur mystère qui s'est ajouté.
Non. Alors qu'ils se sont fait ponctionner, donc 18 % dans dollars, nominaux, là, de plus. En même temps, bon, c'est l'inflation, c'est un peu normal. L'autre élément qui est intéressant de mentionner, c'est qu'en fait, à cause de l'augmentation du taux d'intérêt, du taux directeur, donc les frais de financement de l'État canadien ont augmenté de manière aussi très significative, de 5,6 milliards de plus, là. Donc c'est vraiment une
paiement sur la dette.
Ça pèse lourd. Puis on parle évidemment d'une partie de la dette qui a été générée là, il y a quelques mois pendant la pandémie. Donc là, je pense, comme on le dit souvent, que les taux vont pas augmenter. En tout cas, ils vont pas augmenter autant dans les prochains six mois que dans les derniers six mois.
Tu sais qu'à l'automne 2020, M. Trudeau, c'était après la pandémie, ben, avait fait un discours du trône. Et je veux pas me vanter, mais je pense que je suis le seul chroniqueur au Canada, là, pas au Québec, au Canada, qui a accroché sur une ligne qui disait essentiellement qu'il fallait dépenser beaucoup, il fallait investir pour le pays, parce que les gouvernements, comme le gouvernement du Canada, pouvaient se fier sur le fait que les taux d'intérêt allaient rester bas pendant des décennies. Puis moi, j'avais accroché là-dessus en disant, mais voyons, tu peux pas penser de même. Oui, là, ils ont resté bas, mais tu le sais pas. Là, je veux dire, qu'est-ce qui va arriver? Mais c'était...
Non, puis je pense que l'ampleur de la dépense gouvernementale a aussi fait en sorte que... Puis la manière que ça a été fait, Mario, puis encore une fois, là, je veux pas faire le procès des dépenses gouvernementales pendant la pandémie, mais évidemment, cet argent gratuit, abondant, tout azimut, a fait en sorte que soudainement...
Ça a fioulé l'inflation.
Beaucoup, beaucoup trop de liquidités, on le sait. Ça a fioulé l'épargne, ça a diminué les dettes sur les cartes de crédit, puis tout ça, ça a résulté que les gens avaient tellement de liquidités nouvelles et inattendues qu'effectivement, ils se sont lancés dans de la consommation effrénée, et donc l'inflation là, qu'on vit actuellement. Et puis, c'est ça qui est drôle, hein? Les gouvernements ne le disent jamais. Les leaders politiques sont toujours bien le poing en l'air pour pourfendre l'inflation, là, puis le bouclier et tout. Mais au final, en termes budgétaires, les États adorent ça, l'inflation, parce que ça leur fait des revenus extraordinaires et inattendus, tu sais, comme je le disais, dans des budgets. Et donc, ça permet de rembourser le vieux dépensé là, qui a été encouru dans les dernières années.
Je vais me permettre, vu que je veux pas que tu passes une mauvaise fin de semaine puis que tu t'inquiètes là, qu'il est rentré trop d'argent dans les coffres de l'État, je vais te rassurer sur une chose. L'argent des coffres de l'État, il sort bien. Là. Si tu as peur qu'il y en ait trop rentré, sois rassuré, ça sort. Le tuyau de sortie, eh bien, ça sort. Il n'y a pas de problème.
Je vais bien dormir ce soir, Mario. Okay.
Bon,
moyennant un bébé qui dort aussi.
OK. Le ministre Fitzgibbon qui a commenté pour la première fois l'affaire du groupe Sélection.
Ouais, c'est un peu étrange. Je pense pas qu'il avait à le faire. Après, il a été questionné sur le sujet puis il a choisi de s'exprimer. Rappelons que le groupe Sélection, donc, s'est protégé de ses créanciers plutôt ce mois-ci. Il y a eu un premier jugement qui a été rendu qui donnait raison aux créanciers, donc à un groupe de banques qui aurait avancé environ 265 millions de dollars à groupe Sélection, pour lequel ils sont en défaut de paiement. Et puis, donc, le jugement a été rendu en appel. C'est M. Fitzgibbon, donc, comme tu l'as dit, qui est sorti un peu de sa retenue parce que évidemment Investissement Québec a garanti jusqu'à 60 millions là, de ces prêts-là dans Sélection. Et donc, l'État québécois est exposé si jamais l'entreprise devait ne pas rembourser, ce qui est encore une fois très peu probable. Mais M. Fitzgibbon donc, a posé des questions et il s'est notamment interrogé sur la gouvernance de l'entreprise. Comme on le sait, plusieurs hauts dirigeants ont quitté l'entreprise, mais également de la manière que, tu sais, la gestion financière est faite, la relation avec les partenaires financiers et autres. On a aussi appris plutôt ce mois-ci qu'il y avait des partenaires non financiers là, dans des projets concrets de développement immobilier qui s'étaient retirés ou qui avaient un peu désavoué Groupe Sélection. Donc, M. Fitzgibbon souhaite un peu rappeler là, que, oui, il y a l'aspect financier, il y a l'exposition d'Investissement Québec, mais aussi un enjeu vraiment de saine gouvernance là, qui va devoir être réfléchi dans la suite de ce dossier-là, Mario.
Quand on regarde combien il y a de monde dans la cour des IKEA au Québec, on a l'impression que cette compagnie-là peut pas avoir de mauvais résultats financiers, mais c'est décevant là, pour l'année qui vient de se terminer.
Oui, effectivement. Ben, tu sais, Mario, pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, derrière là, ce qui est pas caché, mais en tout cas, IKEA appartient en fait à une holding suédoise, une holding néerlandaise en fait, là, qui à la base qui détient beaucoup d'activités en Suède, qui s'appelle Inka Group. Donc, et ils ont annoncé leurs résultats annuels aujourd'hui. Leurs revenus ont augmenté de manière assez significative là, de 6%, ce qui est quand même bien. Par contre, évidemment, la fermeture totale et rapide de toutes les activités en Russie, combinée avec des fluctuations dans le prix des matières premières. Il y a une partie, la fin de la pandémie aussi, où la consommation était un peu étrange, qui ont plombé une certaine partie de leur activité. Et surtout, la maison mère d'IKEA a beaucoup d'activités de financement, Mario. Donc vraiment, ils travaillent là, dans l'univers financier, ils financent notamment certains de leurs partenaires et tout ça. Et là-dessus, évidemment, la chute des marchés dans la dernière année a fait perdre énormément d'argent aux financiers, ce qui fait que sur des revenus d'un peu plus de 40 milliards de dollars, ils ont dégagé moins de 200 millions de dollars de profit, ce qui est, c'est toute proportion gardée, vraiment pas beaucoup. C'est 5 fois moins que la profitabilité de l'année dernière, alors que les revenus ont augmenté de 6%. En même temps, c'est un peu exceptionnel. Puis comme tu dis, l'achalandage est au rendez-vous. Les clients continuent d'aimer, d'acheter du IKEA. Mais malheureusement, l'entreprise, qui est une vraie entreprise globale, là, de mémoire, ils ont plus de 500 magasins dans le monde. Ils vivent les difficultés, mais eux, à l'échelle planétaire là, que plusieurs de nos détaillants vivent. Je ne sais pas s'il y a des bons deals à faire Black Friday au IKEA. Mario, on dirait que c'est pas vraiment leur genre, là, mais je vais me plonger là-dessus ce soir.
Moi... J'achète chez IKEA, mais les gens qui ont un plaisir à aller chez IKEA, là, comme dans un musée puis tout ça, faut qu'ils m'expliquent. Là. Moi, ma blonde me traîne chez IKEA, je veux dire, pénible, marcher dans toutes sortes d'affaires qui t'intéressent pas pour peut-être trouver ce que tu veux pour finir dans un entrepôt, pis ça... C'est bon, il y a quelque chose. Les maniaques d'IKEA, ils ont quelque chose qui m'échappe.
Je sais pas si t'avais vu l'histoire, Mario, du monsieur qui avait habité dans un IKEA pendant plusieurs mois sans vraiment être décelé, là.
Il était caché, là.
Puis il se déplaçait d'une place à l'autre de soir en soir. Peut-être que c'est quelque chose que tu devrais expérimenter avec ta conjointe.
Peut-être que ça me réconcilierait peut-être avec IKEA. Hey, merci beaucoup, Francis. Bonne fin de semaine.
Bonne fin de semaine. Ouais.